sont des femmes aux profils divers, provenant de diverses classes sociales. Pendant une heure et sur un ton intimiste, nous interrogerons avec elles leur place, de celles qu'on leur a assignées à ce qu'elles en ont fait, vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux.
Je suis Oubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversations féminines. Docteur en sociologie, ancienne directrice du département des sciences sociales et humaines au bureau de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, spécialiste en genre, consultante internationale, première présidente du COSEF, membre du CODESRIA et de l'AFARD, elle soutient l'une des premières thèses sur le genre en Afrique, si ce n'est la première thèse en 1996 à l'Université Paris 1, Sorbonne, intitulée « Femmes, genre et initiatives de développement en Afrique subsaharienne, théorie et pratique ». Elle s'est consacrée aux questions du genre et de la jeunesse toute sa carrière après un passage à la BCAO pendant 5 ans en tant que sous-directrice de la recherche. À l'UNESCO, elle a coordonné plusieurs recherches et publié plusieurs articles et ouvrages, parmi lesquels « Impact des changements environnementaux sur les migrations humaines » UNESCO 2014. Elle est par ailleurs auteure de « Aspects épistémologiques, théoriques et culturels de la recherche sur le genre en Afrique, présence africaine 2018 ». Soda Libidor et Baol Baol, née à Djourbel, elle est aussi diplômée de l'Académie de Tchombe, école de sociologie de Djourbel, fondée par son père. Veuve du professeur Ibeder Tcham, elle conclut le texte qu'elle a rédigé lors de son hommage anniversaire du 26 février 2023 par ces mots « Repose en paix, Naru Adjissi, corps Soda Libidor, Tcham Bahar, tu as élargi ton héritage séculaire, Sejan Wachana, que Jannatul Firdaus soit ta demeure éternelle. » Maréma Touré-Tcham, bienvenue dans Conversations féminines.
Merci Zoubida. Je suis touchée et émue par ton introduction. Et je suis particulièrement émue par la reprise de la conclusion ou bien de la non-conclusion de l'hommage que j'ai commencé à publier à Ibeder. Effectivement, je lui dis repose en paix, Naru Adjindjaïsi. Naru Adjindjaïsi, parce que l'enfant est toujours un bébé pour sa mère. Et Ibeder était toujours le bébé de Adjindjaïsi. Corso de Libidor. Parce que, effectivement, comme dans l'introduction de cet hommage, je disais que Ibeder m'a protégée comme sa fille, m'a aimée comme son épouse et m'a respectée comme un père intellectuel. Et j'étais restée longtemps sans pouvoir écrire une ligne. Je pense aussi que je dois profiter de ce moment pour te dire que j'ai souvent repoussé les offres que tu me faisais pour me prendre dans conversation féminine, parce que sans le verbaliser, je n'étais pas encore prête. Je n'étais pas sortie du deuil. Comme je n'étais pas prête pour écrire un hommage à Ibeder, je l'ai fait 2 ans après son décès. Je n'étais pas prête aussi pour une expression publique pour parler de moi. Merci d'avoir contribué à me sortir de ce moment que je n'appelle pas une impasse, mais en tout cas de ce moment de repli. Et je dois te dire que j'apprécie beaucoup ce que tu fais et j'aime la totalité des profils que tu as postés et que j'ai suivis. Et je pense que c'est un travail très important, pas seulement de mémoire, mais c'est parce que ça nous rapproche des autres qui sont aussi pour nous des modèles. Parce qu'un modèle peut être même une personne de la même génération. Oui. Si je prends Fatou Sow, mm-hmm. je dirais que Fatou Sow est mon aîné en sociologie. Elle est mon aîné en travail sur les questions féminines. Parce que Fatou Sow, moi j'ai fait une thèse sur le genre. Elle a fait une thèse sur les femmes. Parce que chacune de nous a fait la thèse de son époque. Mais que je le dise ouvertement, et même celles qui ne le disent pas ouvertement, nous avons toutes et tous puisé dans les travaux de Fatou Sow qui nous a montré le chemin
oui.
de comment est-ce qu'on est une femme mmh. engagée et travaillant sur les femmes.
Oui.
Si je prends Rocky Gassama, elle est mon amie, elle est ma sœur. Mmh. J'ai connu Rocky quand toutes les deux on était étudiantes. Mais ça m'a rapprochée encore davantage d'entendre sa conversation.
Oui.
Et on découvre toujours quelque chose de nouveau sur les personnes qu'on croit connaître.
Effectivement.
Et je pense que c'est important ce que tu fais. Et je voulais saisir l'occasion pour t'encourager.
Merci.
Et te dire merci. Et te dire, avec te mettre ton assistant modèle, que je suis heureuse de vous recevoir chez moi.
Tout le plaisir est pour moi, tout le plaisir est pour nous. Et comme je dis tout le temps, hein, et comme j'ai dit, comme Marie-Angélique Savané me l'a dit la dernière fois, mais c'est de l'exploitation familiale. Effectivement, c'est
oui.
de l'exploitation familiale.
Positive.
Oui. Moi, je suis particulièrement heureuse d'être là parce qu'effectivement, ça fait un an que nous essayons de trouver un moment où tu serais, on va dire, plus à même, en fait, de s'asseoir et d'avoir cette conversation-là pour qu'on puisse l'avoir ensemble. Et ce qui m'a marqué depuis le temps que je prépare, c'est qu'on a cette casquette de la sociologue, de la docteure, de la directrice à l'UNESCO. Mais on a aussi cette autre femme, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos, pas mal de choses sur Internet, on a cette autre femme attachée à son baoul natal, son yarim natal. On a Soda Dibidor qui... Est-ce que Soda et Mariam Touré, c'est la même personne?
Oui, mais bien évidemment, c'est la même personne. Mais je pense que dans chaque personne, il y a des identités multiples.
Tout à fait.
Je pense que dans chaque personne, en fonction des circonstances, il y a une identité qui prime sur l'autre. Mais je pense que dans ma personne, il y a une symbiose qui fait que l'Académie Tchombé, l'Académie Sa Tchombé, je dois dire maintenant.
Exact, l'Académie Sa Tchombé, école de sociologie.
Oui, mais je disais Académie Tchombé, mais j'ai un ami malien, Adama Samasekou, qui n'aime pas que ça s'appelle l'Académie Tchombé. Parce que Sa Tchombé, c'est l'autre nom de mon père. Mon père s'appelle Saliou
Tchombé Touré.
Sa Tchombé Touré.
D'accord.
Sa Tchombé, c'est le nom du baoul qu'on donne aux personnes qui s'appellent Saliou.
D'accord.
Et Saliou, c'est son nom musulman, évidemment. Donc, sur la pièce d'identité de mon père, il est écrit Saliou, Sa Tchombé Touré. Mais le diminutif de Sa Tchombé, c'est Tchombé. Mais tu te souviens de Tchombé, de l'Afrique centrale, qui n'est pas un personnage, en tout cas, que les militants retiennent comme une référence. Donc, Adama Samasekou n'aime pas que l'académie de mon père s'appelle Tchombé. Donc, il dit, toujours il me dit, il faut que ce soit l'académie Sa Tchombé.
Au lieu de l'académie.
Alors, c'est l'académie Sa Tchombé. Mais l'académie Sa Tchombé n'est pas un lieu. Effectivement, c'est un lieu sans lettres. C'est pas une académie formelle. C'est que quand j'ai soutenu ma thèse à la Sorbonne en 96, comme tu dis, j'ai dit aux membres du jury que je suis venue à la Sorbonne pour chercher un diplôme dans une académie reconnue, dans une université reconnue. Et je pense qu'en fait, en termes d'université reconnue, pour nous qui parlons le toubab de la France, la Sorbonne est une référence.
Tout à fait.
Mais je crois avoir appris la sociologie dans la cour de mon père, qui, de mon point de vue, est l'académie, où j'ai appris les valeurs cardinales de ma société et où j'ai appris la façon dont les différents segments sociaux hiérarchisent ces valeurs qui sont communes à la société globale. Et de mon point de vue, la sociologie, c'est certes Durkheim et Max Weber et les autres, mais la sociologie, c'est aussi et d'abord l'apprentissage de l'articulation des valeurs de notre propre société. Et ça, je crois l'avoir appris avec mon père, avec ma grand-mère, avec ma mère. Et c'est pour ça que j'ai pensé que la Sorbonne, ce n'était pas un faire-valoir, mais c'était un endroit pour la reconnaissance. Mais la substance, si on peut en parler, parler ainsi, ça, c'est dans l'académie de mon père. Oui. Et dans ma posture épistémologique aussi, dans ma façon d'habiter la science, dans ma façon d'habiter les sciences sociales, je pense que cette multiplicité des identités, mais en tout cas, l'identité qui me vient de ma grille propre valorielle, elle est toujours là.
Oui. Cette identité, elle est du Baol, elle est de Ndiarem, elle est sénégalaise. Comment on l'a construit?
Oui, oui.
Parce que quand je dis sénégalaise, c'est un peu vague de
elle
dire ça de cette manière.
Elle est sénégalaise parce que je parlais tantôt de la société globale et je parlais des différents segments sociaux. Nous pouvons considérer que le Sénégal, nous pouvons considérer que même l'espace ouest-africain, l'espace de la Sénégambie, constitue notre société globale.
Oui.
Parce que ce qui identifie cette société, ce sont ses valeurs communes. Maintenant, dans cette communauté des valeurs, il y a aussi une singularité de la façon d'habiter ou de s'approprier ces valeurs-là. C'est pour ça que tu n'as pas tort en disant cette identité, est-ce qu'elle est sénégalaise, cette identité, est-ce qu'elle est du Baol, cette identité, est-ce qu'elle est de Ndiarem, cette identité, est-ce qu'elle est de Djourbel. Parce que dans Ndiarem et dans Djourbel, tu convoques deux temporalités.
Oui.
Et tu convoques deux façons de considérer la question spatiale. Ndiarem, Djar, Yemou.
Je ne savais pas ça.
Le patelin de Serigne Touba, Cheikh Amadou Bamba, c'est lui qui disait Djar, Yemou. Et cette appellation de Ndiarem renvoie dans l'imaginaire à un autre paradigme. Djourbel renvoie à la spécialité, à la temporalité coloniale qui baptisa Ndiarem Djourbel. Et ce sera en disant Djourbel à l'administration, à la territorialité administrative et à tout un paradigme qu'on renvoie suivant la façon d'appeler. Quand tu dis le Baol, tu renvoies aussi à une autre temporalité, la temporalité précoloniale, à une autre gestion du pouvoir politique et du politique. Baol, la capitale sera Lambaye. Nous dirons pays et ça renverra à toute une autre organisation de la société. C'est pour cela que cette identité-là, que tu dises djourbeloise, sénégalaise, sénégambienne, ouest-africaine, baoloise, ndiarémoise, tout ça tu diras la même chose, ça renvoie à la multiplicité des identités et à la multiplicité des casquettes.
Moi, je sais, oui.
Maintenant, sors de Libido.
Voilà. Et après moi, je vais être à l'Académie Saïtiombe quand on va finir. Je ne sais pas comment on fait.
Pour comment on fait l'affiliation à l'Académie
Saïtiombe? Mais moi, je veux faire partie de l'Académie.
Nous dirons.
Voilà. Sors de Libido.
Vous voyez, ce que je porte, c'est un nini.
Oui.
Nini, c'est le quart du louis d'or.
Oui.
Le louis d'or, qui était la monnaie française, mm-hmm. que Louis XIV frappa mm-hmm. à son effigie, mm-hmm. était pour les femmes sénégalaises à un moment donné une façon de se parer.
Oui.
Et cette coiffure, elle s'appelait mbandal. Tu faisais ton sangsé, tu faisais tes tresses mm-hmm. et tu faisais pendre tes louis d'or. Ma mère avait beaucoup de louis d'or. Et quand vous voyez sa photo qui est mon profil, je pense que c'est 24 louis d'or qui pendent sur son front.
Vous me ramenez très loin. Je revois ma grand-mère. Oui. Ça me ramène super loin.
Oui, mais ma tourando, qui faisait pendre aussi parfois 48 louis d'or.
Quand même.
Et avait même du mal à soulever sa tête et qui fit un collier en louis d'or jusqu'à ses genoux, jusqu'à ses pieds, mm-hmm. et qui fit aussi une ceinture à louis d'or, en louis d'or. Mm-hmm. Et son griot l'appelait Sœur de Louis d'or, mm-hmm. Marème Dollar. Parce qu'elle avait un restaurant, mm-hmm. et dans ce restaurant, mm-hmm. des étrangers avaient mangé et lui avaient payé avec une monnaie qu'elle ne pouvait pas identifier, mm-hmm. qu'elle amena chez Mam Cheikh Anta Mbake, mm-hmm. qui habitait près de chez elle, ou c'est elle qui habitait près de chez Mam Cheikh Anta Mbake, dans son étage qu'on appelait Paris, mm-hmm. parce que mon autre appellation, c'est aussi Sœur de Paris. Mm-hmm. Les tourneaux de ma Badienne, on les appelle aussi Sœur de Paris, Sœur de Louis d'or, Marème Dollar ou Sœur de Paris, mm-hmm. indifféremment. Et comme nous sommes nombreuses, on nous donne à chacun sa façon, chacune sa façon d'être appelée. Mm-hmm. Et pour moi, c'était Sœur de Louis d'or. Mm-hmm. Parfois, accessoirement, Marème Dollar, mm-hmm. et ma cousine qui est décédée, Sœur de Paris, paix à son âme, on l'appelait Sœur de Paris. Mm-hmm. Donc, magnifique. Quand elle amena cet argent-là, Mam Cheikh Anta Mbake lui dit que c'était un dollar, que c'était la monnaie des États-Unis. Mm-hmm. Moussouerko. Elle a laissé ça dans son restaurant, mm-hmm. et les gens venaient dans son restaurant pour regarder le à dollar. Quoi ça ressemble à monnaie des États-Unis. Donc, je suis Sœur de Louis d'or.
Oui.
Et mon défunt époux, paix encore à son âme, Jan Bahar, m'appelait Sœur de Louis.
C'est magnifique. Laïla. Laïla. C'est très, très, très beau, en fait. C'est chargé d'histoire. C'est juste très beau.
Mon père m'appelait Sœur de Louis d'or.
Ouais. On a tous ce nom-là. Il y a que certaines personnes qui nous nomment comme ça, particulièrement. Et ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même portée quand ce sont ces personnes-là qui le disent. C'est vrai. Mon père m'appelle mon père, mon frère. Il m'appelle d'une manière, ce sont les seuls qui m'appellent comme ça. Et c'est assez particulier. Je vous entends parler de votre grand-mère, je vous entends parler de votre mère, parce que vous avez fait référence à elle plusieurs fois, et là, mmh. vous l'avez fait tout à l'heure, mmh. par rapport aussi au 24, Adjaratou Rokhaya Diokhane. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous dans votre construction?
Elle, une grande dame. Et d'abord, ce qu'elle n'a pas représenté pour moi, mmh. parce que quand les garçons et les filles font référence à leur mère, très souvent, c'est les petits plats.
Exactement.
La bonne cuisine. Je ne me souviens pas de la cuisine de ma mère et je l'ai rarement vue cuisiner. Je ne sais même pas si j'ai vu ma mère cuisiner. Mm-hmm. Et franchement, mm-hmm. Ça me manque, le fait de pouvoir dire. Les plats que mijotait ma mère étaient des plats merveilleux. Je ne vous mentirai pas, je ne lui connais pas des plats merveilleux qu'elle me mijotait. Par contre, je l'ai vue tous les jours sortir tôt de la maison pour aller au marché. Pas faire la bougie, mais ouvrir ses sous. Ma mère était une grande commerçante. Petite, puis grande commerçante. Et au marché de Djourbel, elle avait plusieurs soupes et plusieurs types de soupes. Elle vendait des tissus. Elle avait un accord avec la Sotiba où la Sotiba lui vendait des balles de Legos. Les Legos qui restaient, on les mettait en balle, tu pouvais trouver des coupons de 6 mètres, des coupons même de 12 yards, il y avait quelque chose, des coupons de 2 mètres. Et les balles-là, elle les ramenait à Djourbel. Et elle avait un souk où elle les vendait en gros et où on les vendait aussi en détail. Elle allait acheter en gros le souk Djaï à l'usine Apollo TM. Il y a un collègue qui m'a dit, ah oui, la maman de Marema, elle vendait aussi du souk Djaï. Tu as osé aller à la télé pour dire ta mère vendait du souk Djaï. Ça m'a fait sourire. Et j'ai eu pitié de mes collègues qui pensent que la mobilité sociale, c'est quelque chose qui doit cacher ce qui doit être une source de fierté. Ma mère vendait aussi de la vaisselle. Et en fonction de la période de l'année, on pouvait la trouver dans un ou dans un autre souk, parce que c'est là où les affaires marchaient. Par exemple, après la traite de l'arachide, le Baoul est habité en partie par des serrères. C'est en ce moment qu'ils organisent les tiètes. Donc, on achète beaucoup de vaisselle. En ce moment-là, on pouvait la trouver dans les souks de vaisselle. Pendant les veilles de fête, on l'a trouvé au souk de tissu. Et le reste du temps, on l'a trouvé au souk de Fogidiaï. Et le matin, elle ouvrait une balle. Et il y a les grandes, les femmes, les jeunes femmes qui venaient. Tu pouvais prendre une balle et tu versais tous les soirs. Et moi, quand je demandais à ma mère l'argent pour acheter les chaussures diplomates ou les têtes de nègre, elle me donnait des dettes qu'elle n'avait pas pu récupérer. Et elle me disait, la dette d'une telle, ce que tu récupères, c'est pour toi.
Tu avais quel âge?
Je devais avoir, ça c'est jusqu'à ce que j'ai même peut-être 17 ans. Pour le temps que j'ai vécu à Djourbel jusqu'à l'obtention de mon BEPC. Et tout le temps d'ailleurs. Ou bien, quand j'étais plus jeune, elle me donnait le restant en Fougidiaï. Quand tu as fini de vendre les belles pièces, ce qui reste, on l'appelle un restant. Elle me donnait un restant que je vendais en gros. Tu pouvais le vendre en gros, morceau du rhum, morceau foco. Donc, je pense que ce que j'ai le plus retenu de ma mère, c'est d'abord cette faculté à accompagner les jeunes.
Exact.
Parce que quand les gens venaient d'autres territoires nationaux et arrivaient à Djourbel, les jeunes garçons d'ethnie particulière, elle leur donnait des tissus, elle leur donnait des bols, Mudiko Djaï, morceau du rhum, boutique du rhum. Ils plaçaient ça, les garçons, et tous les matins, ils passaient dans les différentes familles, qu'on leur donne 25 francs.
Exact.
Et ça, ce type de commerce s'appelle Bechek.
Bechek, effectivement.
Bechek du Rhum, Bechek Fou.
Exact.
Et c'est ma mère qui a mis le pied à l'étrier à des générations de jeunes qui venaient faire la traite à Djourbel. Et les jeunes femmes qui cherchaient à commencer un commerce, c'est ma mère qui leur mettait le pied à l'étrier en leur donnant des balles ou des quantités de pièces qu'elle allait vendre, verser et garder leurs propres bénéfices.
Oui.
Donc ma mère, c'était une fabricante de jeunes micro-entrepreneurs. C'était une personne qui a transmis à tous ses enfants la capacité de se débrouiller dans la dignité et de forger leur propre devenir. Je pense qu'on devrait enseigner sa méthode dans les écoles, sa façon d'être une mère, qui n'a certainement pas mijoté tous les plats qu'on voulait, mais qui nous a appris autre chose. Et j'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, même un enfant malchanceux peut compter sur une mère protectrice, une mère éducatrice et une mère génitrice.
Oui.
Elle était à la fois les trois. Et il y avait d'autres figures de mère. Je pense particulièrement à Yaye Soufi Ndiaye, une maman de Saint-Louis, qui est prise côte à côte avec nous, et qui, elle, parce que à cette époque-là, cette façon de vivre le voisinage et cette façon de vivre ensemble que nous, on avait à Durbel, faisait qu'à midi, ma famille, la famille de Yaye Aïssata Penda et la famille de Yaye Soufi Ndiaye, amenaient leur plat dans notre cour qui était au milieu. Et nous, les enfants, on pouvait manger dans le plat que nous voulions.
Oui.
Et Yaye Soufi, elle se chargeait toujours du devoir de nous trouver la sauce qu'on devait mettre dans notre pain
oui.
le lendemain pour aller à l'école. Et si elle n'avait pas gardé cette sauce, elle prenait une partie de l'huile du Tchewoudjen,
oui.
ton nibi,
exact.
Pour nous mettre ça dans
sur le pain.
Alors,
et dire que c'est une autre époque. Et oui, ma grand-mère m'a fait ça beaucoup,
oui.
quand on revenait de l'école ou avant de partir, de prendre ce morceau de pain.
Là, le petit tourni.
Waouh, exactement. Et, mais c'est... J'ai pas fait... Je devrais faire ça pour mes enfants au moins, pour leur faire découvrir ça. J'avais
ça.
Complètement oublié, ouais. oublié cette pratique-là. Et dans quelle fratrie as-tu grandi en fait? Dans quelle fratrie as-tu grandi? Parce qu'il y a beaucoup de figures féminines autour. Et comment tu t'es construit en fait par rapport à tout ça?
Oui, moi... D'abord, c'est avec la délimitation de la fratrie qui j'inclus dedans.
Oui.
Que j'ai eu le premier problème ou la première problématique. Comment je construis une fratrie dans mon entourage? Est-ce que c'est les enfants de ma mère? Est-ce que c'est les enfants de mon père? C'est différent. Est-ce que les enfants, c'est les enfants qui vivent avec nous, de même père ou de même mère, dans la même maison? Est-ce que c'est les enfants confiés à mon père, qui venaient du village? Parce que ma mère était la troisième épouse de mon père, et c'était son épouse citadine.
Donc, ah, on va revenir sur ça, c'est intéressant.
Nous,
oui.
on habitait à Durbel, où l'épouse de mon père, dans sa maison de Durbel, c'était ma mère. Mais mon père avait ses deux épouses, les deux premières, Ya Astou Sow, jusqu'à son décès, et Ya Sokhna Sow, après le décès de Ya Astou Sow, et Ya Fatou Gueye, au village, à Kouré, à 14 km de Durbel, où mon père, qui était traitant à Durbel, avait ses champs. Et tous les enfants qui réussissaient à l'entrée en sixième dans le village ou dans les contrées environnant du village vous venez chez nous à Djourbel. Mm-hmm. Et ma fratrie, c'est tout cela. Mm-hmm. Maintenant, si tu veux me demander, les enfants de ma mère, nous étions trois filles.
Fratrie, comme tu le souhaites.
Oui,
moi,
nous
ça
étions trois filles et trois garçons.
Oui.
Trois filles dont je suis la troisième et mm-hmm. trois garçons qui étaient après moi. Mais nous vivions avec les cousins, mm-hmm. les cousines, mm-hmm. et on était tous ce que j'appelle moi ma fratrie, parce qu'on était les enfants de mon père et de ma mère, et on faisait tout ensemble.
Oui, je vois, je vois très très bien.
Donc, dans cette fratrie, il y avait mes grandes sœurs, mes jeunes frères, mm-hmm. mes cousins, mes cousines que ma mère récupérait de son village natal Gat quand elle allait faire son tour, mm-hmm. en bonne harmonie.
Ouais.
Ce qui me distinguait un peu des autres, c'est que j'étais la seule parmi les filles à aller à l'école.
Oui, et d'ailleurs, c'est la question que je me posais.
À l'école coloniale.
Comment tu as fait pour aller à l'école, pour être la seule en fait?
Je n'ai pas fait, on a fait pour moi, parce que mes deux grandes sœurs mm-hmm. étaient d'un autre lit. Je dois dire mes trois, mais parce que la première, mm-hmm. c'est l'enfant de ma mère, mais c'est à la vérité l'enfant de sa grande sœur qui l'a sevrée quand elle avait 8 mois, parce qu'elle était malade, et qui l'a donnée à ma mère.
Oui.
Et moi, j'ai compris qu'elle n'était pas l'enfant biologique de ma mère après 13 ans.
Oui.
Et ces trois enfants-là, Ndei, Ami et Kidney, ma mère les avait déjà avant d'épouser mon père.
Oui.
Et quand mon père a voulu les amener à l'école française, comme on disait à l'époque, mm-hmm. je l'appelle maintenant l'école coloniale.
Oui.
Oui. Mon oncle maternel, qui était à Touba, mm-hmm. Mourut de forcené, est venu lui dire que les enfants de son lignage mm-hmm. maternel ne peuvent pas aller, n'iront pas à l'école. Aïe Djerbatam, d'une jambe école.
Wow.
Parce que je crois que les valeurs qu'il associait peut-être pas à tort à l'école, mm-hmm. n'était pas pour lui des valeurs convenables.
Par rapport à son référentiel de valeurs, oui, pour son oui.
Mon père ne pouvait pas se battre avec lui parce que ses enfants, tout en étant ses enfants, n'étaient pas ses enfants biologiques. Donc, attends, moi, à 6 ans.
Oui, toi, tu es parti à l'école. Parce que. Désolée de te couper, je fais pas ça d'habitude, mais c'est, cette matrilinéarité que tu es en train d'évoquer oui. m'interpelle et je voudrais qu'on puisse revenir dessus. Ce oui. fait aussi d'avoir un enfant et de le donner, ni offrir n'est un bon terme. En tout cas, je vais le prendre quand même, de le donner à sa sœur et que cet enfant soit élevé comme son propre enfant. Je voudrais qu'on puisse revenir dessus après. Mais c'est pour ça que je t'interromps, j'en suis désolée.
Je vais te dire mieux que ça. Mm-hmm. Moi-même qui te parle, quand tu es arrivée, je te disais mm-hmm. ma fille a amené les conserves des États-Unis.
Oui.
Ceux qui me connaissent ma fille. Mm-hmm. ma fille n'est pas mon enfant biologique. Mm-hmm. C'est aussi ma fille qui m'a été donnée par ma grande sœur.
Oui.
Je t'ai parlé de Kiné et de Ami,
mm-hmm,
et de Ndei.
Mm-hmm.
Ami et moi n'avons pas d'enfant biologique.
Mm-hmm.
C'est celle qui est au milieu, Kiné, qui a les enfants biologiques, qui sont nos enfants.
Mm-hmm.
Mais moi particulièrement, il y en a une qu'elle m'a donnée quand elle avait 3 ans,
mm-hmm,
qui a grandi avec moi, que tous mes amis connaissent, et qui est maintenant mariée aux États-Unis, qui a 2 charmantes filles, dont une porte mon nom, Marema, très coquine, et que j'appelle ma fille. Mm-hmm. Elle est ma fille.
Mm-hmm. Oui.
Et Ndei, notre grande sœur aînée,
mm-hmm,
j'ai découvert après 13 ans la fille biologique de Yaïsoukei, la grande sœur de ma mère, de mon père et de ma mère, qu'elle a donnée à ma mère quand elle avait 8 ans, 8 mois.
8 mois. Mm-hmm.
Et ma mère n'avait pas encore d'enfant, mais c'est elle qui s'en est occupée et c'est Ndei qui m'a éduquée en partie. Quand je te parlais tout à l'heure de papa,
oui,
c'était pas mon père, c'était l'époux de Ndei.
Mm-hmm.
Mon père aussi, je l'appelle papa. Mais papa, ça c'était papa, le
mm-hmm
mari de Ndei.
Mm-hmm.
Que nous, parce qu'on avait le même âge que ses enfants, on appelait aussi papa. Alors, la filiation,
mm-hmm,
elle est assez complexe chez nous, dans notre culture. Et quand on fait la sociologie de la famille chez nous, j'ai toujours pensé que nous devons parler de 3 types de filiation. Ce qu'on enseigne aux étudiants, c'est qu'il y a le lignage maternel, la matrilinéarité, dont tu parles si bien. Enfin, ce n'est pas la matrilinéarité. La matrilinéarité, c'est le fait que certains biens se transmettent chez nous
par
le lignage maternel.
Oui.
La matrilinéarité, c'est le lignage maternel.
Mm-hmm.
Effectivement, l'enfant du lignage,
mm-hmm,
appartient au lignage de sa mère,
mm-hmm,
appartient aussi au lignage de son père,
mm-hmm,
qui est gagnant chez nous.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a une autre filiation,
mm-hmm,
parentale très solide que nous devons aussi enseigner, c'est la parenté par le coleret.
Oui.
Parce que je te parlais tantôt de Yaïsoufi Ndiaye,
mm-hmm,
je te parlais de Yaïsoufi Penda,
mm-hmm,
mais la descendance de Yaïsoufi Ndiaye, Ndei Soufi, Bintoussi, Papasi, Ndei Lumbe, Yélissi, paix à leurs âmes, ce sont leurs petits-enfants qui sont maintenant dans la maison. Mais je ne sais pas comment je pourrais faire pour ne pas les considérer comme les enfants de mon autre lignage.
Mmh.
Ils ne sont ni de mon lignage patrilinéaire, ni de mon lignage matrilinéaire. Mais dans mon cœur, dans mon esprit et dans ma promiscuité,
mmh,
ils sont plus proches de moi que les enfants de mon lignage biologique.
Mmh.
Et je pense que ça, c'est un type de filiation et d'affiliation parentale qu'on devrait aussi prendre en considération.
Mm-hmm.
Parce que moi, si j'avais ma mère qui m'a appris,
mm-hmm,
à m'en sortir économiquement et à pouvoir me débrouiller pour payer mes chaussures diplomates ou ma robe en satin,
mm-hmm,
duchesse,
mm-hmm,
je n'ai pas souffert d'une maman qui me donnait du pain chocolat ou qui me faisait du sauce soplé pour mettre dans mon pain quand j'allais à l'école pour mon goûter. Et ça, si je peux me prévaloir de cette maman-là, c'est parce qu'il y avait Yaïsoufi.
Oui.
Et c'est pour ça que, autant je pense que j'ai des devoirs vis-à-vis de Ami, ma sœur qui reste à Durban,
mm-hmm,
autant j'ai toujours pensé que que je devais avoir des devoirs vis-à-vis de Ndeye Sophie et Bintou, mes autres grandes sœurs qui étaient dans la maison voisine. Mmh. Et je crois que l'Académie Tiombé en sociologie, c'est en cela qu'elle est riche, qu'elle est plus riche que le fait de se limiter à Durkheim et à Weber, parce que probablement qu'il y a des choses de l'identité et de l'environnement sociologique de ces pères qui ne sont pas de notre société. Mais il y a aussi dans notre société des choses à comprendre qui ne se posent pas de la même façon.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que même en science, même en épistémologie, je suis le produit de l'Académie Sadiombe, parce que je suis, si je me définis comme sociologue, une sociologue qui essaie d'inclure cela dans l'objet d'analyse.
Oui. C'est magnifiquement dit. Et tu m'as emporté avec toi, en fait, dans toute cette partie de ton histoire. Et du coup, moi, je t'ai interrompu, je t'ai fait aller dans un autre sens. Mais j'avais besoin de l'entendre. Et c'est aussi le fil de la conversation.
C'est le sens.
Parce que je te disais tout à l'heure que conversation féminine est née de ça, de ce besoin de transmission entre femmes, de ces cercles de femmes où on pouvait se dire ces choses, se raconter ces choses, de comprendre les liens familiaux, de comprendre son positionnement nous-mêmes dans ce cercle, on va dire, ou dans cette communauté, et de savoir comment continuer à avancer avec tout ça. Et ça m'amène à la question de la place, parce que j'ai vu comment tu as grandi au sein de ta fratrie et de comment tu l'as définie. J'ai vu comment tu as pu, tu n'as pas fait le choix, ton père a fait le choix pour toi, mais comment tu as pu accéder à l'école française, là où tes sœurs n'ont pas pu accéder à l'école française, pour les raisons évoquées tout à l'heure. Et du coup, j'ai envie de te demander quel était, tu es arrivé à l'école française, donc un choix de place est fait, mais si tu dois analyser la place qui t'était réservée à la base, est-ce qu'il y a une place où on avait dit que Soda, ce serait, on l'attend ici, voilà le parcours de vie qu'on trace pour elle, ou ce qu'on veut qu'elle devienne. Quelle est la place qui t'était destinée?
Oui, je pense que c'est celle qu'occupent mes sœurs. Dans tous les cas, dans l'entendement de ma famille maternelle, ma place, elle n'était pas à l'école coloniale. Dans la place, dans l'entendement de mon père, c'est pour cela que je pense d'ailleurs que les questions de genre et les questions d'éducation des filles sont souvent plus complexes que la façon dont on les problématise.
Oui.
Parce que c'est comme si on est en face d'une autorité masculine qui garde les enfants à l'école, en dehors de l'école, et d'une autorité féminine qui essaie de les tirer. Ce n'est pas ça. Moi, c'est par la volonté de mon père, c'est-à-dire c'est par la volonté d'un homme que moi je suis allée à l'école. C'est aussi par la volonté d'un homme que mes sœurs ne sont pas allées à l'école. Ce que cela dit, c'est que l'autorité, elle est aux hommes. Mais cette autorité qui est aux hommes n'est pas une autorité qui appartient à un bloc monolithique. Le bloc des hommes n'est pas un bloc monolithique. C'est parmi les hommes d'une même génération, c'est-à-dire mon oncle, Didier Abdou, paix à son âme, et mon père, Alhaji Salihou Touré, paix à son âme, que le Seigneur fasse qu'il se retrouve au paradis. C'est à travers deux hommes qu'on s'est battu pour nous amener à l'école ou pour ne pas nous amener à l'école. Ça veut dire que c'est à travers deux hommes qu'on s'est battu au nom des valeurs que nous devions incarner. Mon oncle et ma mère étaient de son côté. Ne refusez pas ma réussite, entre guillemets. Il et elle, parce que ma mère était avec lui, se sont battus parce que la façon dont ils voyaient la trajectoire de réussite d'une fille n'était pas d'aller à l'école. C'était de rester dans la maison, d'incarner les valeurs familiales dont ma mère n'incarnait pas une partie parce qu'elle ne savait pas, je ne connais pas ses qualités en cuisine, et de se marier et de faire des enfants.
Oui.
Mes sœurs se sont mariées, mashallah. Elles ont fait des enfants, mashallah. Elles ont aussi une réussite économique parce qu'elles sont toutes des commerçantes. Ndey, la première, elle était avec une dame qui s'appelle Aminata Tandiné, les deux premières femmes ici au Sénégal à avoir eu l'import-export. À l'époque, c'était institutionnalisé. Et on disait qu'il fallait avoir 20 millions de capital pour pouvoir y prétendre. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas économiquement réussi. Mais en tout cas, pas de la même façon que moi.
Oui.
Et ça se trouve que moi, ce qui me lie à elles, c'est que même diplômée, je suis restée la baol des diplômés. Que j'ai toujours su négocier mes marchés, y compris même gagner de l'argent un peu en vendant du savoir.
Exact.
Bon, donc, la question de la place, elle est complexe.
Oui.
La question de la problématisation du genre, elle doit être nuancée.
Oui.
C'est par le fait d'un homme que j'ai failli ne pas être allée à l'école. C'est par le fait d'un homme, tous les deux incarnant une figure d'autorité, mon oncle maternel et mon pater, mon père, le pater familial, que j'ai été à l'école.
Oui.
Ça veut dire que quand nous abordons la question de l'éducation et du maintien des filles à l'école, nous devons parler avec les femmes. Nous devons parler avec les hommes. Nous devons parler à la société. Parce que ce qui différencie les approches basées sur le genre et les approches basées sur la femme, c'est là où gît le mal, le problème. L'expression de l'idéologie patriarcale qui informe la société, et c'est dans la société.
Oui, il faut aller chercher, trouver, et voilà.
Il faut trouver
dans
les racines et les questionner. C'est la société elle-même qu'il faut questionner.
C'est clair. Et je t'entends parler. Des fois, je suis fascinée aussi par comment nous construisons nos pensées, comment nous émettons notre raisonnement. Et je t'entends parler de ta mère qui s'est libérée de certaines contingences sociales pour devenir la commerçante qu'elle est devenue, cette femme accomplie qu'elle est devenue, mais n'a pas fait tout le travail de déconstruction. Bon, je vais prendre déconstruction, c'est tout ce qui me vient. N'a pas fait tout le travail de déconstruction jusqu'au bout. Pour elle, il y avait des limites. C'est-à-dire, elle devait être autonome financièrement. D'accord, pour cela, il fallait abandonner une partie du poids qu'elle devait porter. Mais ça avait des limites.
D'ailleurs, comme pour nous toutes, il faut que nous imposons des limites.
Oui.
Et je dis que là où j'ai la question, c'est dans notre propre capacité et dans notre propre désir de négocier les limites avec nous-mêmes. Le périmètre de liberté, disons entre guillemets, que j'ai, se négocie d'abord avec moi, avant de se négocier avec un compagnon. Mm-hmm. Je pense que il n'est jamais venu à mon père l'idée d'interdire à ma mère sa liberté d'aller tenir son commerce. Il n'est jamais venu à ma mère l'idée de ne pas assumer ou de faire assumer ses devoirs conjugaux et tous ses devoirs, mm-hmm. y compris le devoir de fournir le repas à l'heure. Mm-hmm. Parce que quand elle n'était pas là pour faire le repas à l'heure, ma mère a toujours vécu avec ses petites sœurs. Mm-hmm. Mais, surtout Mbène, mm-hmm. sa sœur. Tu vois, Bijou Ndiaye, la fille qui est à TFM.
Oui, oui, oui.
Sa grand-mère. Et okay. la petite sœur de ma mère, Mbène.
Ok.
Qui habitait avec ma mère. Mbène, Fatou, Ndey, ma grande sœur. Mm-hmm. Elles ont toujours assumé à tour le repas. Mm-hmm. Aïe, Tom. Mm-hmm. Sama Ayu Yaï. Mm-hmm. Faire le linge pour mon père.
Oui.
Et très tôt, j'ai vu des aides domestiques chez nous.
Oui, déjà.
Parce que ma mère, elle avait la possibilité de les payer. Mm-hmm. Et elle les payait.
Oui.
Et je crois aussi que ce qui était un fait dans sa génération, mm-hmm. c'est que quand on te donnait la dépense quotidienne, mm-hmm. tu devais faire en sorte que le repas soit très bon. Elle avait toujours su mettre ce qu'il fallait.
Est-ce que ça a
changé? Que les repas
soient très bons.
Soient très bons mm-hmm. pendant ses jours de tour. Mm-hmm. Et même en dehors de ses jours de tour.
Parfait.
Et moi aussi, mm-hmm. je n'ai pas encore rencontré l'homme qui va penser qu'il doit me dire si je dois travailler ou pas. Oui. Parce que pour moi, même en ménage, mmh. ça ne fait pas partie du périmètre de la négociation.
Tout à fait.
Et je pense que personne, il ne viendra jamais à l'idée d'un homme de me dire « Maréma, c'est là que ta liberté de te mouvoir mm-hmm. doit s'arrêter. »
Oui, je comprends.
Donc, et je crois que oui, mes sœurs aussi, je pense qu'ils sont mariés avec des hommes bons, mais c'est plus des gens qui les ont aidés à grandir mm-hmm. en autonomie économique et financière. Que des hommes qui ont essayé de brimer leur liberté oui. d'exister.
Je comprends.
Et je crois que dans ma famille, y compris mes nièces mm-hmm. et mon enfant, elles ne seront jamais orientées vers des hommes qui leur diront « Yo do l'égalité. »
Oui.
Et ça, je crois que ça fait partie du setting.
Mmh. Oui.
Nous n'avons pas été formatés
oui.
pour rencontrer mmh. ce type d'homme qui régente nos vies.
Tout à fait.
Nous ne les avons pas cherchés, nous ne les avons pas rencontrés. Et ma petite fille, Maréma et Mambousso, elles ont 6 ans et 11 ans, mais je crois que déjà dans leur façon d'être, je peux lire cette autonomie mmh. par rapport à certaines choses. Pourtant, mmh. je crois bien que nous sommes des femmes, des épouses excellentes. Mmh. Ma mère était une excellente épouse. Je pense qui faisait bien au-delà mm-hmm. de ce qu'on attendait d'elle comme épouse, mes sœurs aussi. Mais je crois que ça ne fait pas partie du périmètre du négociable, certains traits de mm-hmm. de leur indépendance.
Clairement, clairement. Nous allons arriver presque vers la fin. Et je t'ai entendu parler de ces hommes qui ont marqué ta vie d'une manière. Il y a eu ton oncle maternel, il y a eu ton père. Mais il y a un autre nom qui est... il y a eu le professeur Ibadertia. Mais il y a eu un ami à vous qui a fait quelque part, si j'ai bien compris, que vous n'êtes pas resté à la place de secrétaire, qui est le travail que vous aviez à un certain moment.
Ça...
Et j'aimerais bien qu'on revienne sur ces... Voilà.
Oui, c'est pas seulement... Je dois dire même, c'est pas seulement un ami, c'est une génération d'amis. Voilà. Mais il y en a un en particulier.
Exact.
Même l'histoire de devenir secrétaire, c'était autre chose. Vous savez, je viens de dire tantôt que ma mère n'aimait pas l'idée que j'aille à l'école.
Oui.
Elle l'a manifesté, elle l'a vécu. Et d'ailleurs, elle a mené tous ses fils à l'école privée. Moi, j'étais restée à l'école publique. Et quand j'ai participé à la grève et que j'ai été virée comme les grévistes, je suis partie faire des cours de soir en secrétariat au CMT de Djouvel.
C'était en quelle année?
J'ai eu mon BEP.
On était en quelle année?
On était en 75, 76. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, je vous passe une bonne partie de l'histoire. Je suis allée travailler à la Sodeva de Djouvel. Et c'est moi, fatiguée, parce que j'étais une militante du PIT. Je ne sais pas si je dois dire j'étais ou je suis, parce que Ibader me disait que les militants du PIT ne guérissent pas. Il reste des militants du PIT.
Ça ne se soigne pas.
Ça ne se soigne pas, parce que c'est aujourd'hui encore l'essentiel de là où j'ai recruté mes amis et mon entourage.
Oui.
C'est dingue que quand je vais, je travaillais à l'UNESCO, quand je partais travailler en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina et tout ça. Et j'étais soit chez Arunaja, chez Fodendjai, chez Marito, avec Marito Nyan, je te disais que je devais l'écouter ce matin.
Exact.
Et l'essentiel des personnes que je fréquente physiquement ou en affection, c'est de là qu'elles proviennent. Un jour, Semou m'a trouvé à la Sodeva dans mon bureau. Elle m'a dit, et il me disait toujours dans nos discussions, tu es trop intelligente pour être secrétaire. Et ça, c'était Semou. Mais c'était aussi Pelé. Il soutenait, paix à son âme. Avant-hier, j'ai reçu un appel de Tafasila qui était à la LD. Et quand j'étais au collège à Djouvel, en 1974, Pelé, Tafasila, tous les gens qu'on appelait à l'époque les camarades, même avant que la LD, la scission qui a amené à la LD n'existe, ils venaient toujours me prendre pour qu'on aille dans les débats. C'était pas encore l'été débat, mais on organisait des débats. Et eux me disaient toujours que je devais essayer de sortir de là. Et plein de camarades ont pris le relais et ont joué un rôle dans le fait que je sois allée à l'université. Et je pense à Maguey Kassé. Je pense à Yahya Kane. À son âme. Parce que l'année où je suis partie en France pour faire mon examen d'entrée à l'université, c'est Maguey qui me donnera l'adresse de Yahya Kane, qui m'a cherché, qui m'a hébergé, qui m'a accompagné. Wali Ndong et sa femme Eliane Simon, une camarade du Parti communiste, qui tout le temps, plus de 10 ans que je suis restée en France, pendant tout le temps que j'avais besoin d'avoir des bulletins de paye pour aller faire ma carte de séjour, c'est Eliane, la camarade du Parti communiste et compagne de Wally, le camarade du PIT, qui s'en sont chargés. Donc, c'est toutes ces filiations, toute cette filiation PIT, les encouragements de Samba Dioulde, qui est mon ami, dont un des enfants porte mon nom, une des filles, Marem, Maguette, Amat, tous ces gens qui occuperont toujours une place dans mon esprit, dans mon cœur, et qui l'ont occupé aussi dans ma vie. C'est nous qui ont joué un rôle principal. Allah, qui était mon camarade, qui m'a amené en politique, qui est l'époux de ma sœur, qui naît, dont je parle, et qui est donc le père de mon enfant, Astou, celui qu'on appelle aujourd'hui Doyen Allah Kane, qui est le père de Sonko, qui a créé le Maggi Pasté, et qui, quand j'étais jeune, et qu'il était au PAI, clandestin, me faisait jouer déjà des rôles d'enfant. Allume le fourneau pendant qu'on se réunit, et si la police vient, tu diras qu'on fait du thé. Qui m'a fait lire Georges Pulitzer quand j'étais jeune, et que je te disais tout à l'heure que dans mon enfance, l'univers de livres que j'avais, c'était l'univers du bureau de Allah, où c'est les camarades, les militants, la vie de militants qu'on trouvait. Et qui, quand à la grève de 68, les enfants me disaient à l'école des filles, on garde votre maison, il y a la police. Lui, il me disait, nous, on garde notre maison parce qu'on est des patriotes. Et qui me faisait recopier dans des cahiers de 32 pages, nous sommes des patriotes. C'était un mot qui était difficile à écrire. Et c'était un peu ça, mon univers. Et je pense que c'est moi particulièrement, mais tous les camarades, tous les camarades ont joué un rôle fondamental en m'encourageant que je pouvais faire autre chose que secrétaire de direction. Merci à eux.
Merci à toi aussi.
Oui, parmi ces hommes-là, il y a aussi le plus récent et le plus constant, c'était Ibader.
Oui.
Comme je disais, il m'a trouvé déjà à la limite intellectuellement construit. Quand j'ai épousé Ibader en 96, j'avais déjà soutenu ma thèse. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à m'embrigader. Et c'est quelqu'un qui a toujours respecté mes propres choix. Quand je l'ai connu et épousé, j'étais déjà un peu en partie en retrait du cadre partisan. Mais il a toujours su et compris que mes amis, c'était mes camarades. Et d'ailleurs, les fois qu'il se fâchait avec moi, il me disait deux choses. Vous me connaissez, il me disait, c'est pour tout va bien. Il me disait, yo marema, yaï tout va, yo minan café ou amou soukar. Ou le yo marema, d'où va y mouk, ce du co communiste. Donc, et ça, très franchement, je pense que c'est une des choses qui me permettent aussi de mesurer la chance que j'avais d'être avec quelqu'un qui avait autant de respect et une si forte opinion de ce qui devait être la place de la femme dans la société. Oui, je suis une femme. J'ai appris des femmes, mais j'ai aussi appris des hommes. Et j'ai bénéficié du soutien de beaucoup d'hommes dans ma famille, parmi mes amis, et encore aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est nous sommes presque à la fin. Il me reste deux questions à te poser, Tata Marema. Mais avant ça, toutes les fois où je le peux, où on a des partenaires qui acceptent de suivre avec nous ce projet-là, dans la plus pure tradition, on va dire sénégalaise, on ne va pas voir les gens les mains vides. Ken du dem keur ken set nit ak loxoy kessé. Bo fay dem, dafa am lo yobou. Et aujourd'hui, j'ai prévu de t'offrir un gel nettoyant exfoliant, une crème solaire et le sérum correcteur. Pourquoi cette marque-là en particulier? Inoya est une marque française, mais créée par un Sénégalais avec sa femme. Donc cette marque a 10 ans, 11 ans cette année, et ils font de super produits et ils sont très dans un positionnement qui est anti-dépigmentation. Il n'y a pas de produits dépigmentants dedans, il n'y a absolument rien, et les produits sont juste superbes, ils sont extraordinaires. C'est ceux que j'utilise encore aujourd'hui. Je les utilise depuis 8-9 ans maintenant que j'utilise les produits Inoya, et c'est ce que je ramène pour toi. Donc si tu aimes tout ce qui est skincare routine, etc., donc c'est pour toi, et puis voilà. Non. Je suis encore super émue par rapport à ce que tu
dis. Merci beaucoup. Je dois d'abord te dire que je vois ici un titage. Je dois te dire que tu es une bonne ambassadrice pour une marque que tu utilises, parce que mashallah, tu es jolie.
Merci mashallah. Beaucoup Tata.
Et je pense
coquette. Merci, et vrai. Si j'avoue.
Et à te regarder, on sent que c'est une peau dont on occupe, dont on s'occupe. Mm-hmm. Moi, avec Inoya, je vais apprendre. Non, je ne suis pas en train de rigoler.
Oui.
Moi, je ne mets aucun produit.
Oui, je comprends.
Et quand je me réveille, avant là, comme j'avais la peau très sèche, comme j'ai la peau très sèche, et que pendant le froid, surtout quand j'étais en France,
de me didim.
Alors, Khadikan, c'était une camarade aussi du parti, du pays. Elle m'a appris à utiliser le karité, et je mettais de la glycérine.
Oui.
Et quand et aujourd'hui encore, je suis de la glycérine.
Oui.
Et quand j'étais ici, il y avait une amie, Mbone, qui me disait, glycérine de fleur nioule.
Oui, mais oui.
Et Asoukan m'a dit, quand elle est partie, yo nioule de pas pareil.
Qu'est-ce
utilise ta glycérine si tu veux.
C'est exactement
ça. Parce que
ça.
Tu ne risques plus rien. Et je pense que pour elle,
oui.
Et je crois que pour moi aussi, je suis le degré zéro de nul.
Mais
je pense que yo mal le gëna xess.
Donc, mais dal man buma tollé buma amé say at yal na mel na yow parce que machallah vraiment
c'est ce que la directrice générale de l'UNESCO m'a dit.
Mais c'est vrai,
quand je lui ai dit que elle m'a dit Maréma, j'ai dit je vais prendre la retraite, ou tu pars où, j'ai dit je prends la retraite. Comment une jeune fille comme toi, tu dis que tu pars à la retraite? J'ai dit je pars à la retraite parce que j'ai 65 ans et je pense que j'ai assez travaillé. Elle m'a dit quand j'aurai 65 ans, je voudrais bien te ressembler.
Moi, volontiers aussi, je mais vote pour.
Moi, là, je vais essayer.
Non, mais c'est pour ça que c'est...
Parce qu'il faut que je commence quand même à faire du nettoyage.
C'est, voilà, c'est très... Vous avez le gel moussant, au moins. Oui, parce que même moussant. Si vous vous lavez le visage avec du savon, tout simplement, le gel moussant fait là, vous permet de laver le visage.
Parce que, sable ordinaire, oui.
Oui, seulement.
Même là, il m'a dit que ça
va.
Ou le savon noir, vous m'avez aimé. Diwo kay ci ge glycérine rek.
Non mais c'est extraordinaire.
Xam nga ñun wax man néna la ben bawol la. Dans mon âme quoi.
Oui.
Et puis par filiation et par adhésion.
Oui.
Kon la seule préoccupation que j'ai, buñ ma joxé produit rek dama nan mba du xéssal.
Non.
Donc comme du xéssal. Té xéssal bobu am 65 ans, dina ko essayer. Té ma ngi lay dik né. Bu fekké né doxna adina di jënd inoya
oui
diko utiliser.
Ils sont aussi présents dans quasi toutes les pharmacies de Dakar.
Ouais, les produits
sont présents dans toutes les pharmacies. Et voilà,
pharmacies.
Donc ça, le produit nettoyant, il est superbe, sérieusement. En tout cas, man, c'est ce que j'utilise. On va faire ça très simple. J'utilise le sérum et la crème solaire.
Ouais, mais sérum, moi, je ne peux utiliser parce que man, dañ ma may ben affaire bo xamné dañ ma dañ ci bind sérum.
Dès que tu te nettoies le visage, bo ko raxé seulement ba paré, directement, tu mets les gouttes, tu l'appliques sur ton visage en évitant ton contour des yeux. C'est tout. Et tu laisses sécher, après ne diw sa kanam nga dem. Du coller, du def dara. C'est comme ça qu'on l'utilise, exactement. Voilà, donc tu mets quelques gouttes derrière, là, tu peux, il y a une bille qui le spray là, donc il y a tout ici, tu prends, et après il y a des choses comme base, pas comme djap, et il y a des sa crème d'em. Lui dit où tu as, on a dit où tu as.
Qu'est-ce que y a eu item?
Bon, à la décharge de ma mère, tamit jangaluma ko, waye comme daawuma deglu torop, man am ni ko jëm nako tamit doxul.
Jangaluma ko de mom. Mom nak néna dafa rafetone, machallah.
Ouais.
Mais dal magni.
Mais tu es magnifique, tata. Et merci on beaucoup. Passe aux deux dernières questions. C'est les seules questions que je pose tout le temps. Et la première, c'est: considères-tu aujourd'hui être à ta place?
Oui, je crois. Oui. Oui, je vais même dire oui. Oui, je suis à ma place. Mm-hmm. D'abord, je suis à la place d'une femme de plus de 60 ans, qui même socialement n'est plus soumise aux contraintes dures de la société. Je suis une mère et grand-mère choyée. Et je suis une vieille femme indépendante. Et j'ai la faculté et la possibilité de me présenter telle que je suis et de dire les choses telles que je les sens. Oui, je suis à une place que j'aime. Je ne me plains de rien. Évidemment, il y a toujours les contraintes dans la société globale. Mais j'ai une famille magnifique qui me permet réellement de faire à ma tête. Si Kofi ne fait pas très bien le Tchéboudjène ou le Dakhine que j'aime beaucoup, si j'appelle n'importe laquelle de mes belles filles, le plat me trouve ici. Tu me diras que c'est une manière de perpétuer l'idéologie patriarcale. mais l'idéologie patriarcale, je suis aussi en partie dedans.
Oui.
Et je la combats pour qu'elle déménage. Mais pour l'instant, elle est là.
Oui. Merci. Et la toute dernière, et ça, j'ai des réactions diverses et variées.
Et c'est pour ça que je te dis, n'hésite pas de parler de la machine à laver.
Il n'y a pas
parce
de souci.
Que ce n'est pas parce que tu rêves
oui.
qu'elle ne soit pas là pour attester de la place de la femme, que la place de la femme
n'est pas là. Oui, on est bien d'accord. Et nous sommes en 2023.
Oui.
Et si tu avais 20 ans cette année, qu'aurais-tu aimé savoir?
Aujourd'hui.
Si tu avais 20 ans cette année.
Si j'avais 20 ans. Mais tu sais, j'aurais aimé avoir une meilleure maîtrise de ces technologies, de l'information et de la communication. Je ne sais pas utiliser grand-chose. Et je ne m'investis pas tellement pour les maîtriser. Mais je pense que si j'avais eu 20 ans, j'aurais voulu voir du pays. Voyager. Et j'aurais voulu aussi avoir une plus grande maîtrise de ces outils de transformation sociale. On dit que cette année, le thème du 8 mars, c'était le numérique.
Oui.
Et le numérique, c'est le meilleur et c'est le pire. J'aurais voulu avoir un rapport plus actif et plus dynamique. Et je me serais peut-être investi pour.
Oui. Merci beaucoup, Maréma Touré-Tcham. Merci de nous avoir reçus pour Conversation Féminine. Merci beaucoup.
Tout le plaisir était pour moi.
Je suis contente.
Cet épisode a pu être réalisé grâce au soutien de la Fondation Heinrich Boll. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation Féminine. Je vous retrouve tous les 15 jours sur Du Coq à l'Âne.
Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando, é assim que uma bomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando, é assim que uma pomba nasce ninho.